France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Né en 1843 dans le petit village de Sauveterre dans les Pyrénées, arrivé à l'âge de 5 ans à Paris, ouvrier typographe à 12 ans, Jean Alleman devint en 1871 l'un des chefs les plus actifs de la rébellion communarde dans le 5e arrondissement de Paris. Dans la première émission d'une série de 3 inconnus de l'histoire, nous avions fait la connaissance de ce personnage à la trajectoire à la fois singulière et représentative de ceux que l'on appelait à l'époque les communeux. Sa vitalité, son talent militaire, sa passion républicaine et patriote, ses convictions socialistes. On avait découvert comment, au moment du déclenchement de l'insurrection, le 18 mars 1871, Alleman avait mené la lutte autour de la montagne Sainte-Geneviève. Dans ce deuxième volet, on le retrouve au mois de mai 1871, face à la répression de la Semaine sanglante, à l'issue de laquelle il sera arrêté, condamné aux travaux forcés à perpétuité et déporté au bagne de l'île Nou en Nouvelle-Calédonie. Les inconnus de l'histoire, Jean Alleman, deuxième volet, par Jean Montalbetti, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 mars 1983.
Unknown people in history.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconocidos.
Unbekannte der Geschichte.
L'uomo non si rende zero.
The unknowns of history.
Les inconnus de l'histoire.
Enquête sur un communard déporté au bagne de Nouvelle-Calédonie, Jean Alleman, 1871-1880, par Jean Montalbetti. Médiateur Madeleine Rébériou, vice-présidente du musée d'Orsay. Consultant Jean Rollin, conservateur du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. Dans le rôle de Jean Alleman, Jean Rochefort, avec la voix de Jean Barnet. Réalisation Eliane Millot.
Nous apprîmes bientôt que le commandant du 118e bataillon, obéissant à nos instructions, avait envoyé sa première compagnie occuper la mairie du 5e, que lui-même se portait à la pointe du square de Cluny avec le restant de son bataillon. C'était le moment de marcher sur le Panthéon et nous communiquâmes à Duval notre résolution afin qu'il en fît son profit. Nous nous disposions à partir quand mon frère vint nous aviser que la première compagnie du 118e était maîtresse de la mairie, ce qui provoqua un grand enthousiasme. Laissant aussitôt quelques hommes à la permanence, nous partîmes environ une soixantaine avec quelques caisses de cartouches. En route, notre détachement s'augmenta dans de notables proportions et nous arrivâmes fort nombreux à la mairie, où nous trouvâmes le capitaine Ferrino et la première compagnie du 118e. Dans l'intérieur du Panthéon se tenait un bataillon de la ligne dont les sentinelles, placées sous le péristyle, observaient tous nos mouvements. Nous nous hâtâmes de prendre les dispositions nécessaires, comprenant que d'un moment à l'autre, la situation pouvait devenir critique du fait de la brigade campée au Luxembourg et des gardes nationaux de l'ordre qui lui prêtaient appui. La mairie, l'école de droit, la bibliothèque Sainte-Geneviève sont prestement mises en état de défense et 10 barricades entourent le Panthéon. En présence de ces préparatifs, le commandant de la ligne s'émeut. Il demande à parlementer. Le citoyen Ferrino et moi, nous nous rendons auprès de lui. Est-ce des dispositions de combat que vous prenez, messieurs ? Nous demande-t-il. Commandant, nous n'ignorons pas que le Luxembourg renferme une brigade qui peut nous attaquer à l'improviste et nous placer entre deux feux. Or, comme vous prétendez garder le Panthéon, nous prenons nos précautions. À la première velléité de votre part, nos hommes tireront sur les vôtres. Mais si je n'interviens pas à temps, Vous allez me couper la retraite. C'est chose déjà faite, commandant. Et le mieux que vous puissiez faire est de nous céder le Panthéon. Jamais. Vous entendez, jamais. J'ai reçu l'ordre de garder le Panthéon et je le garderai coûte que coûte. À votre aise, commandant. Quant à nous, nous allons parachever nos barricades et porter le gros de nos forces entre vous et la brigade du Luxembourg. Il s'en fut maugréant. Vers 4 heures du soir, quelques soldats firent mine de s'avancer sur la place. Nous leur intimâmes l'ordre de réintégrer le Panthéon s'ils ne voulaient essuyer le feu des gardes nationaux. Une demi-heure s'était à peine écoulée que le commandant nous faisait connaître qu'il demandait à capituler. Ce fut ainsi que, sans qu'il en coûtât une goutte de sang, nous prîmes possession du temple des grands hommes.
André Berrioux, Allemagne, un révolutionnaire radical, quel est son comportement au moment des événements de la Commune? Est-ce qu'il a une attitude assez sanglante? Il procède à des arrestations assez nombreuses. Il semble qu'il soit également responsable d'un certain nombre d'exécutions également qu'il nous rapporte.
Oui, son action, je crois, est tout de même surtout anticléricale. Surtout anticléricale. Vous savez, c'est l'homme qui a fait hisser le drapeau rouge sur le Panthéon à la place de la croix.
Et il a fait hisser les deux bras de la croix du Panthéon.
Extraordinaire. Ah oui, haranguant la foule. Bon, je dois dire que ça rappelle des événements de mai 68 avec le drapeau rouge sur la Sorbonne. C'est un peu, en somme, une réplique au drapeau rouge hissé, cette fois-ci à la place de la croix, sur le Panthéon par Allemagne.
Alors pourquoi cet anticléricalisme?
Eh bien, d'abord, il y a un anticléricalisme de jeunesse, je crois, d'enfance. N'oubliez pas que son père lui avait présenté comme toute perspective, s'il voulait aller à l'école, la fonction de curé, et que dans la bouche de son père, ce n'était pas un éloge. Il y a donc une tradition sans doute peu cléricale dans la famille, et tout à fait conforme à la situation de nombreux villages de la Haute-Garonne, et tout à fait conforme aussi à la réalité du petit peuple parisien dans lequel la famille de son père s'est insérée.
Il semble qu'il n'admette pas qu'on puisse être à la fois républicain et clérical.
Ah bon, vous savez, c'est pas le seul. Alors ça, ça c'est pas le seul.
Mais par exemple, c'est un des conflits qui l'oppose à Régère, le maire du 5e arrondissement,
oui.
Qui est un républicain libéral et clérical.
Oui, et catholique. Oui. Ah oui, il a une grande méfiance pour Régère.
Mais à cause de cela, à cause de sa foi et de ses rapports avec les clergés.
Et puis parce que Régère est modéré aussi. Régère n'est pas l'homme des grandes décisions. Régère n'est pas l'homme des décisions exaltées, hein, à la différence d'Allemagne. Mais c'est ainsi, vous savez, l'Église, c'est l'Église de toutes les répressions au XIXe siècle. C'est quand même l'Église qui a armé le bras de la répression lors de chaque révolution. C'est l'Église qui a soutenu Napoléon III. Et avec quelle énergie? Et avec quelle énergie? Bon, l'Église apparaît aux yeux des républicains comme le soutien de la monarchie et comme la force qui a mis au pouvoir Napoléon III. Mais il n'est pas seulement anticlérical, c'est vrai qu'il n'est pas tendre pour ceux qui le considèrent suspect, et suspect pouvant faire courir des risques à la Commune. Il est responsable d'arrestations, et semble-t-il, il s'en vante en tout cas, d'exécutions, dans des conditions très sommaires, ce qui est assez étonnant et ce qui renforcerait l'analyse que les historiens font sur l'autonomie des arrondissements sous la Commune, car il n'y a pas eu d'exécution sous la Commune avant l'exécution des otages, hein. C'est-à-dire avant que le conflit ne s'engage au plus haut avec Versailles, avant le début de la semaine sanglante. La Commune n'est pas un régime sanglant. La Commune s'est engagée, y compris dans les exécutions d'otages, lorsque le conflit a pris son allure militaire la plus ouverte. Il semble que ce ne soit pas le cas pour Allemagne. Dans tous les cas, 30 ans plus tard, il se vante encore d'avoir fait exécuter des suspects dans des conditions de grande précarité judiciaire. Cette énergie, cette véhémence extrêmement zélée, dans l'incorporation des réfractaires. Et les réfractaires sont très nombreux, car beaucoup de boutiquiers du 5e arrondissement, beaucoup d'employés aussi, et probablement aussi quelques ouvriers, ne sont pas pressés de s'engager dans la garde. Il faut donc... Ils courent derrière eux, véritablement. Et le nombre des dépositions à charge contre lui à son procès est lié en grande partie à des réfractaires qu'il avait forcés à s'engager dans la garde nationale.
Jean Rollin, vous venez d'acquérir pour le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis un document original aussi sur la Commune, un très beau dessin.
Un dessin qui n'est pas signé et qui représente une séance du conseil de la commune à l'hôtel de ville.
On voit que c'est un croquis qui a été pris vraiment sur le vif.
Sur le vif, très certainement en vue de réaliser une illustration pour la presse. Alors, bien sûr, c'est une sorte d'instantané et il est intéressant pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils représentent et leurs noms sont indiqués au bas avec des renvois grâce à des numéros sur les silhouettes. Ils représentent des membres aussi éminents du Conseil de la Commune que Le Français, Jourde, Bellay, Arnoux, Vermorel, le général Eudes,
De l'Écluse,
Félix Piat, Rigaud. Et d'autre part, ce document est très intéressant parce qu'il montre un salon de ces bâtiments qui ont été entièrement détruits par le feu.
La commune a pris un certain nombre de décisions pour lutter contre l'influence cléricale dans Paris et notamment l'influence des congrégations dans l'enseignement. Nous en avons ici un témoignage par une affiche et par un certain nombre de caricatures, d'illustrations prises dans les journaux qui sont très violemment anticléricales comme l'était Jean Alman.
C'est cela. Je crois que la commune est anticléricale, bien sûr, du fait de la philosophie de beaucoup de ses dirigeants qui sont athées ou matérialistes, mais aussi parce que le clergé s'est beaucoup compromis avec le pouvoir, avec l'Empire. Et dans ces conditions, il est certain qu'il est exécré par le peuple. Alors, toutes ces caricatures raillent très violemment les prêtres. Et
on voit par exemple là ici un prêtre qui est accompagné par une courtisane et qui est en train de voler l'argent des troncs d'église.
C'est ça, oui. Alors, évidemment, cela c'est la petite histoire, mais ce qui se rattache davantage à la grande, c'est ce décret historique de la Commune de Paris. Article 1, l'Église est séparée de l'État. Article 2, le budget des cultes est supprimé. Article 3, les biens dits de main morte appartenant aux congrégations religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriété nationale. Article 4, une enquête sera faite immédiatement sur ces biens pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la nation. Ce décret de la Commune de Paris est daté du 3 avril 1871.
Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Ô vicaire le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse. Sans Dieu, se faire ploter les fesses. Nom de Dieu, se faire ploter les fesses. Quand il t'appelle que nom de Dieu, suce à leur équipage. Quand il t'appelle que nom de Dieu, suce à leur équipage. Un pied sur le moyeu, nom de Dieu, pour venger cet outrage. Sans Dieu, crache-leur au visage. Nom de Dieu, crache-leur au visage. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu, fous les églises par terre. Sans Dieu, et le bon Dieu dans la merde. Nom de Dieu, et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre. Sans Dieu, mérite la lanterne. Nom de Dieu, mérite la lanterne.
Pendant ces journées de la Commune, il va s'efforcer de faire cesser l'influence du clergé. Par exemple, il a interdit aux maires régères de recevoir des prêtres ou des religieuses à la mairie du 5e arrondissement. Oui. Il expulse également les sœurs d'un couvent rue de l'Épée de Bois, toujours dans le 5e. Et il va également expulser les frères, occuper une école qui se trouve rue Rollin.
C'est la rue Rollin.
Il y a là une action assez originale, c'est-à-dire une tentative immédiate pour faire cesser l'influence des congrégations sur l'éducation.
Oui, alors dans cette mesure, Alman se situe bien d'ailleurs dans le contexte laïque convaincu de la Commune. Vous savez que la Commune a été le premier régime en France a proclamé l'école gratuite, obligatoire et laïque. Et que les lois Ferry, finalement, ne feront sur ce point que reprendre et étendre à toute la France les décisions de la Commune. Alors, laïcité, simplement laïcité pour les communeux, et en particulier pour Allemagne, ça n'a pas tout à fait le sens que le mot aura pour Ferry, car Ferry ne s'est pas donné comme objectif de supprimer les écoles des frères, mais de rendre l'école publique laïque. Alors que sous la Commune, dans une période de grande exaltation, de grands combats contre toutes les forces de la réaction, auxquelles l'Église paraît associée, et plus particulièrement dans le 5e arrondissement, qui est très riche en couvents, il ne faut pas l'oublier, très riche en écoles privées. Allemagne dirige l'offensive contre l'école des frères de la rue Rollin. Ces propos sont significatifs d'un état d'esprit, sont significatifs d'une mentalité, de la mentalité de ces républicains profondément et véhémentement anticléricaux. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les enfants n'aillent plus à l'école. Allemagne est passionné par les problèmes d'éducation. Et il le sera toute sa vie. En déportation, il écrira à son neveu Charles, qui a 15-16 ans à l'époque, le fils de son frère aîné François, et il écrira à son fils à lui, qui s'appelle Charles aussi, tout petit enfant qui a 7-8 ans quand il lui écrit, qui est né peu après la Commune. Il leur écrira en soulignant constamment la nécessité d'aller à l'école, même si l'école, croit-on, est ennuyeuse. N'écoute pas, leur écrit-il. Les gens qui te disent que l'école c'est ennuyeux, l'école c'est fondamental, il faut faire des dictées, il faut apprendre l'orthographe, il faut apprendre la grammaire. Si tu ne sais pas ça, tu ne sauras rien, tu ne pourras rien faire dans la vie. Il les exhortera à aller dans les bibliothèques, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, pour y lire les livres des historiens. Il est passionné par l'école. Il pense que l'école, c'est la clé de la libération. Et c'est pour cette raison que l'école vidée des frères est immédiatement réouverte sous la direction de femmes citoyennes. Il y a chez Allemagne un côté très, très attentif aux vocations des femmes et à la capacité des femmes à exercer au-delà de ce que les hommes leur reconnaissent comme vocation, que l'on retrouvera toute sa vie. Il y a un petit côté féministe chez Allemagne qui est extrêmement passionnant.
Il décrit aussi le courage des femmes sur les barricades.
Il décrit leur courage sur les barricades. Tout à fait. Et chez les frères, il exalte ce que devient l'école une fois qu'elle est vidée des frères et que les femmes s'en occupent. La soupe devient bonne, la maison devient propre, les enfants sont bien habillés. Et enfin, on enseigne aux enfants les bons principes. Les principes, l'amour de la République. L'amour de la République. Voilà Allemagne pendant la Commune. Donc un personnage assez ambivalent. Nous n'avons pas de sympathie particulière pour les gens qui font exécuter des suspects sans que ceux-ci aient passé en justice. Bon. Et nous pouvons juger excessive la manière caricaturale, peut-être, dont il décrit la maison de l'école des frères. Mais ce qui est passionnant chez ce personnage, c'est cette vitalité, cette énergie, ce républicanisme à outrance, comme on dit à l'époque. Il est républicain à outrance. Être républicain à outrance, c'est être bon républicain. Ce n'est pas un défaut, c'est une vertu, c'est une qualité républicaine. Pendant la Semaine sanglante, il va avoir l'occasion de manifester ses qualités et ses défauts peut-être aussi, ses traits de caractère excessifs avec une force particulière.
Sous une inscription du Carmel qui dit « Avec Dieu, plus on fait les choses promptement, moins on souffre, plus on mérite », vous avez regroupé un certain nombre d'illustrations concernant la Semaine sanglante.
Oui, cette Semaine sanglante qui est intervenue après que, par une trahison d'un dénommé Ducatel, les troupes de Versailles aient réussi à pénétrer dans Paris. Le 22 mai, si mes souvenirs sont exacts, et très rapidement, les troupes versaillaises ont enlevé toutes les défenses des communards. Les communards s'étaient fait, beaucoup d'illusions sur l'efficacité de leurs barricades. On n'en était plus au Paris de 1848 ou de 1830. Paris avait changé. Haussmann avait complètement modifié la capitale. Et on pouvait, avec un canon ou une mitrailleuse, les mitrailleuses sont de fabrication récente, on pouvait tenir des avenues entières, comme la rue de Rivoli ou l'avenue de l'Opéra.
On voit d'ailleurs des gravures représentant des combats dans les Champs-Élysées, une attaque également de la place Vendôme, et la prise de Montmartre aussi, on voit ces combats de rue et des fusillades à chaque coin de rue.
C'est ça, et la prise de Montmartre a été une grande déception pour le Conseil de la Commune. Les communards s'imaginaient que Montmartre était imprenable, or Montmartre est tombé très très vite.
Beaucoup de gravures également représentant des scènes de barricades, notamment deux belles gravures de Manet.
Oui, ces deux lithographies de Manet sont les deux lithographies de ce grand artiste consacrées à la Commune de Paris. L'une représente une exécution et l'autre des morts au pied d'une barricade.
Et juste en face, alors l'autre côté, c'est-à-dire les exécutions d'otages, avec notamment l'exécution de l'archevêque de Paris.
C'est ça.
Monseigneur Darbois.
L'exécution de l'archevêque de Paris.
Qui a lieu le 24 mai.
C'est ça. Et les exécutions de religieux de la rue Axo. La commune voulait échanger l'archevêque contre Blanqui. Mais Thiers s'y est refusé. Et Monseigneur Darbois avait envoyé son vicaire général pour négocier avec la commune cet échange. Il lui avait fait jurer de revenir dans les 8 jours. Et jamais le vicaire général n'est revenu, et Monseigneur Darbois a été exécuté. Cette exécution, évidemment déplorable, est intervenue, il faut aussi le dire, à la suite des exactions faites par les Versaillais, qui, les premiers, ont commencé à exécuter les prisonniers qu'ils avaient faits, et le premier, le plus illustre, étant Gustave Flourin, ce professeur au Collège de France, à la tête de ces hommes, qui avaient été faits prisonniers.
Une autre personnalité de la Commune qui a également écrit sur l'histoire de la Commune, Louise Michel.
Louise Michel, évidemment, grand personnage de la Commune. On la voit ici dans 2 tableaux de Girardet. D'une part, haranguant les communards, et d'autre part, prisonnière et emmenée en prison.
Après les scènes de rue, les grands incendies au cours de cette semaine sanglante, de mai 71, il y a une sorte de vue panoramique de Paris en flammes.
Oui, je crois que cette guerre civile de 1871 a causé de grands dommages à Paris. Et quand on songe que les Tuileries ont été brûlées, que l'hôtel de ville a disparu avec toutes les archives de la ville, il est certain que ce sont des pertes irréparables.
On voit ici le feu sur le Palais Royal et on voit les Tuileries en train de brûler et sur un autre tableau qui est une peinture à l'huile, les Tuileries à ciel ouvert avec tout l'intérieur dévasté. Et il y a une femme en deuil qui se trouve au milieu en train de contempler ce sinistre.
C'est ça, et qui est presque une représentation symbolique. Mais il faut dire aussi que ces Tuileries, il est bien dommage qu'on ne les ait pas reconstruites. On était en mesure de le faire. Lorsqu'on voit les photographies des Tuileries après l'incendie, on ne peut pas comprendre comment elles n'ont pas été reconstruites.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le les mauvais jours finiront. Les gares à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge. Valet de roi et d'empereur, oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.
Anna, Les artilleurs sont moissonnés par les Versaillais, installés au palais du Luxembourg ou abrités derrière les arbres du jardin. Il faut cependant arrêter l'ennemi qui va nous tourner. Je m'élance rue Royer-Collard, où des gardes nationaux viennent d'édifier une seconde barricade. Ce sont les camarades du 119e de marché, des artilleurs venant des rues du Val-de-Grâce et Gay-Lussac. À ce moment apparaît un sergent-major de chasseurs à pied. « Vive la garde nationale » s'écrie-t-il. J'ordonne de charger la pièce à mitraille et d'attendre, car je soupçonne l'intention scélérate de l'ennemi qui, 100 fois déjà, a fait tomber les fédérés dans ce piège grossier. « Vive les soldats » dis-je à haute voix. À ce cri encourageant, la rue s'emplit de chasseurs qui, à leur tour, acclament la garde nationale. Je retiens les naïfs comme les impatients et monte sur leur retranchement improvisé. « Jeunes soldats, si vous avez réellement l'intention de fraterniser avec nous, prouvez votre bonne foi en déposant vos fusils le long des maisons et venez ensuite à la barricade. » Mais au lieu de cela, ils s'avancent toujours plus nombreux, le fusil au poing, clamant la commune, se croyant déjà maître de la barricade. « Halte, fis-je d'une voix rude. Vive la France, en avant, à mort les communards !» Feu à volonté, et je sautai au milieu des miens. Pièces et chasse-peaux vomissent la mort. Des chasseurs lancés en avant viennent expirer au pied même de la barricade dont les défenseurs ont su déjouer leur manœuvre traîtresse. Ceux que les balles ont épargnés se replient précipitamment vers la rue Gay-Lussac.
À partir du 21 mai, les Versaillais vont entrer dans Paris. La répression va être d'une brutalité et d'une sauvagerie... Oui. Qui semble rétrospectivement tout à fait inutile. Alors, quel va être d'abord le comportement d'Allemagne au cours de ces journées et pourquoi justement la violence de cette répression ? Jusqu'où va-t-elle ?
Allemagne fait partie de ceux qui ont désespéré de la victoire dès le début de l'entrée des forces de Thiers dans la capitale. Et ce désespoir va nourrir chez lui, pendant toute la semaine sanglante, non pas le refus de se battre, tout au contraire, la volonté de se battre, mais une exaspération de ses côtés exaltés et ardents qu'il avait eu l'occasion de manifester comme délégué dans le 5e arrondissement. Il s'occupe immédiatement de la défense du quartier latin, c'est-à-dire que tout de suite, il y a repli sur son quartier. Barricade rue Soufflot jusqu'à la Seine, organiser des créneaux, ce qu'il appelle la crénelle d'un certain nombre de bâtiments, menacer de mettre le feu à certains bâtiments. Il a menacé de mettre le feu, dit-on, au Panthéon. Les employés de la mairie l'accuseront d'avoir voulu mettre le feu au Panthéon. Nous n'en avons aucune preuve. Et le fait est que le feu n'a pas été mis au Panthéon, que le Panthéon n'a pas sauté et qu'Allemagne a toujours nié cette accusation qui a été portée ensuite contre lui. Il est certain qu'il est hors de lui plus qu'il l'avait été pendant les semaines précédentes. Tuer, tuer encore. Voilà ce qu'il réclame pendant ces 7 semaines où il voit s'effondrer les espoirs de la Commune et par-delà la Commune, l'espoir de la République, l'espoir d'un sort nouveau pour la classe ouvrière et pour l'ensemble des Républicains. Il poussera les combats le plus longtemps possible, jusqu'au dernier jour, et parviendra à se cacher d'abord dans le quartier. Et Dieu sait quel courage ont eu les gens qui ont accepté de cacher le citoyen Allemagne dans le quartier même. Quand on sait à quel point il s'y était fait connaître et combien d'ennemis il avait pu s'y faire. Puis, grâce à son frère, il est communard comme lui dans un autre arrondissement, plus âgé que lui de 4 ans, son frère François, qui constitue un élément très très important d'une famille qui va se reconstituer après la déportation. Il est probable que c'est lui qui a rendu François communard, c'est lui qui a fait avancer son frère dans les voies de cette république exaltée et de cette passion qui l'entraîne. Mais les deux frères sont extraordinairement liés. Il y a donc là une espèce de fraternité très 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 profonde que l'on sent pendant toute la semaine sanglante. Et finalement, la famille de la femme de son frère qui accueille Jean Allemagne dans le quartier de Belleville, qui lui fait passer des vêtements, qui lui fait passer des faux papiers, qui lui fait passer de quoi se déguiser, traverser tout Paris et s'installer finalement à Belleville, quartier auquel Allemagne restera extrêmement lié plus tard.
Les deux frères vont être arrêtés ensemble
dans la belle famille donc de François, sur dénonciation, comme on l'a su plus tard, du concierge de la maison. Et les deux frères arrêtés ensemble seront transférés ensemble de prison en prison,
du dépôt à l'orangerie de Versailles.
Dépôt, oui, du dépôt affreux, la fosse aux lions, épouvantable, ce qu'on appelait la fosse aux lions.
Ils sont enfermés dans une soupente, la fosse aux lions, à l'orangerie de Versailles,
non, c'est une chose
où ils sont une vingtaine. Et le frère de Jean Alman demande à être enfermé avec lui, dans les mêmes conditions de détention, ce qui est aussi une preuve de solidarité extraordinaire entre les deux
frères. Ils ne seront pas condamnés aux mêmes peines, car François étant considéré moins coupable, sera seulement condamné à la déportation à perpétuité, alors que Jean, le plus coupable, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. La déportation apprendra à Jean et à François et à bien d'autres qu'il y a des nuances dans la déportation, qu'il y a bien des manières d'être déporté.
Ornant largement la muraille d'un drapeau rouge assemblé, cachant les trous de la mitraille dont les vaincus furent criblés, bien plus belle que la sculpture des tombes que bâtit l'orgueil, l'herbe couvre la sépulture des morts enterrés sans cercueil. Ce gazon
Les communards sont donc assimilés aux détenus et aux condamnés de droit commun. Ils n'ont pas du tout un régime politique, un régime spécial.
Tant qu'ils sont en France, ils sont même plus maltraités encore que les droits communs. Et une fois qu'ils arrivent en déportation, dans les lieux de déportation, il y a des statuts très différents, dont Alman rend bien compte. Mais le premier moment, le moment où la révélation de ce que va être le bagne émerge, ce sont les cérémonies d'initiation. Et pour Alman, elle se déroule à Toulon au mois de juin 72. C'est le moment où on leur rase les cheveux en escargot, c'est le moment où il revêt l'uniforme du bagnard, c'est le moment où on lui met les fers, et c'est le moment où on leur impose le rama, c'est-à-dire la barre à laquelle les fers des forçats sont attachés pendant la nuit. C'est aussi le moment où ils perdent d'une certaine manière leur identité pour devenir un numéro. Alman changera d'ailleurs de numéro en cours de transport. Son numéro de départ, c'est le 24328.
Alors, au fond, qu'est-ce qui caractérise essentiellement l'univers du bagne des Toulons ?
Des Toulons, eh bien, c'est précisément le fait d'avoir perdu son identité de citoyen, d'être profondément humilié. C'est cette humiliation que des hommes comme Alman et comme l'ensemble des communards ne supportent pas. La vie dure, le froid, la nourriture infâme, ce sont des choses qu'en somme des travailleurs ont pu connaître dans leur vie, même si Alman avait eu un métier relativement privilégié de ce point de vue. Mais cette humiliation, cette obligation d'obéir à des petits chefs grossiers et infâmes qui se réjouissent de leur malheur et qui tentent de leur imposer la conscience qu'ils ne sont plus des hommes, qu'ils sont devenus des valets, des asservis. C'est cela que les communeux, hommes fiers entre tous et pour qui la commune avait été d'une certaine manière l'expression de la fierté, ne peuvent pas tolérer. Et c'est certainement un des lieux où Alman a puisé sa haine des chefs, sa haine de ceux qui commandent et son désir profond d'égalité entre les hommes, sa passion pour l'égalitarisme qu'il partagera avec l'ensemble du mouvement qui portera plus tard son nom.
Nous abordons le Rhin et un à un nous défilons devant le commandant et l'officier de quart. Puis le capitaine d'armes et des surveillants militaires, nos nouveaux gardes-chiourmes, uniformes flambant neufs, nous indiquent la cage où nous devons nous rendre. Les 50 condamnés de la commune sont placés à tribord et classés 5 par 5 dans les 10 premiers plats. C'est là le mode maritime de classement. Malgré notre mélange avec les forçats de droit commun, nous avons la satisfaction grande d'être emprisonnés tous les 50 dans la même cage et de nous pouvoir garder des mille avanies inhérentes à une fâcheuse promiscuité. Notre cage renferme 120 condamnés répartis en 12 plats et le Rhin compte 4 cages semblables. Elles sont fermées par de gros barreaux de fer et ont l'aspect de ménagerie dont les forçats sont les animaux féroces. Au haut bout de chacune se montre la gueule d'un canon, tout prêt à vomir la mort dans nos rangs.
Le voyage va prendre fin le 23 avril 1872, lorsque le Rhin, le bateau qui transporte les condamnés au bagne, va arriver à Nouméa. La destination d'Allemagne va être finalement l'île Nou. Et l'île Nou, si on lit les témoignages sur la commune et le sort des communards, je pense notamment au livre de Louise Michel, semble le bagne le plus terrible qu'aient connu les communards.
C'est le plus terrible, mais ce n'est pas le hasard. C'est parce qu'il y a des degrés dans la déportation, dans la transportation. Cette inégalité fondamentale entre les déportés est un des moyens de constituer entre eux des différences, de les opposer entre eux. Elle correspond aussi à des volontés d'abord à des peines différentes qui leur ont été parfois infligées au départ, mais elle correspond plus souvent encore à la volonté de créer des différences complémentaires entre les déportés pour les opposer les uns aux autres. En tout cas, c'est rarement les punitions, et notamment l'envoi dans l'île de Nou, qui est considérée comme une punition terrible, sont rarement infligées sans qu'il y ait quelques motifs. Et le motif qui conduit Allemagne à se retrouver dans l'île de Nou, c'est qu'il est accusé d'avoir été informé et d'avoir fait passer des épreuves de journal ou divers camps avec des nouvelles de France, alors qu'il n'avait naturellement pas le droit de le faire.
Oui, il était à l'époque à l'imprimerie du gouvernement à Montravel.
C'est ça.
Et donc il avait un certain nombre d'informations. Et avant même qu'elles aient été publiées, il l'avait fait transmettre par quelqu'un qu'il croyait sûr, un ancien communard, ou tout au moins un déserteur de l'armée des Versaillais vers la commune.
Et il fait passer les épreuves.
C'est-à-dire, malgré tout, pas des documents secrets, puisque c'est des articles qui allaient être publiés le lendemain.
Pas du tout, mais il fait passer les épreuves aux divers camps, aux détenus des divers camps, de telle manière que ses camarades aient des nouvelles de France, qui était quand même le désir numéro un, l'aspiration numéro un de ceux qui étaient privés de leur liberté. Alors il est envoyé au bagne de Nou dans ces conditions, à la suite de cette faute évidemment et minime, et qui pour lui n'était pas une faute, qui pour lui était accomplir son devoir.
Dans l'imprimerie nationale à laquelle il est employé comme typographe, on utilise donc ses compétences.
On utilisait ses compétences.
Mais en même temps, le fait qu'il soit un ouvrier de l'imprimerie semble être constamment à charge. D'abord, on le soupçonne, et cela dès le bagne de Toulon, on le soupçonne d'être aussi un journaliste, c'est-à-dire d'écrire des articles qu'il fait passer, d'ailleurs c'est le cas pour le journal du Var lorsqu'il est au bagne de Toulon, qui informe l'extérieur des conditions de détention des communards dans ces bagnes.
Oui, jusqu'à cette date, Allemagne n'écrivait pas dans les journaux, comme on disait à l'époque, mais il est certain qu'il y a entre les ouvriers typographes et les journalistes des relations d'amitié qui se créent dans les imprimeries de presse à la fin du Second Empire. Allemagne avait, à la fin de l'Empire, travaillé dans le réveil de l'Écluse. Il retrouvera de l'Écluse pendant la Commune. Et dans le cadre du journal, il avait noué des relations d'amitié avec un certain nombre de journalistes. La typographie, et particulièrement la composition dans la typographie, est un milieu dans lequel se trouvent aussi bien des autodidactes comme Allemagne que des gens qui ont au contraire une instruction qui, à l'époque, le baccalauréat, passe pour d'un niveau exceptionnel.
Allemagne, un autodidacte qui a tout de même acquis une très bonne langue, même si on le voit notamment dans sa correspondance, il écrit en faisant beaucoup de fautes.
Il écrit une très belle langue, une langue très, je dirais presque très littéraire d'une certaine manière, une langue très inspirée par les auteurs qu'il a lus et dont il s'est nourri. plus inspiré peut-être encore que s'il n'était pas autodidacte. Mais c'est une, je crois que c'est une des conséquences du mode d'éducation ou d'instruction qu'il s'est donné, que l'admiration profonde qu'il éprouve pour un certain nombre d'écrivains est admiration qu'il transporte dans son mode d'écriture. On le voit bien dans ses lettres, par exemple, dans les lettres à Marie Quesneau qu'il épousera à son retour du bagne.
J'ai vu avec plaisir que notre cher Charles se mettait sérieusement à la besogne et tenait à me le prouver. Cela me fera beaucoup plus de plaisir que toutes ses promesses. Dis-lui, ami, les prières que je fais à ce sujet et combien je suis affecté d'ignorer où en est sa jeune intelligence. Mon fils, demeurant ignorant, serait le plus grand malheur qui puisse m'atteindre. Que notre Charles le sache et qu'il tienne à me rendre la tranquillité en m'envoyant un témoignage de ses efforts pour me complaire. N'y est-il pas aidé par les gentils commencements de notre chère Jeanne, laquelle se met si bravement à la besogne? Allons. Mon aimé Charles, fais violence à ton engourdissement intellectuel et taille gaillardement dans le domaine de Madame Dorian, en attendant que des circonstances plus heureuses nous permettent de te donner un plus large champ et de plus amples moissons. Lis, écris et compte, et ton père trouvera ses chaînes moins lourdes et son horizon moins sombre. 2 juin 1878.
Pendant les 9 années qu'Alman va passer au bagne, il ne va tout de même pas être complètement coupé du monde extérieur. D'abord, des nouvelles politiques de ce qui se passe en France au cours de ces années 70 semblent lui parvenir assez régulièrement. Et d'autre part, il continue tout de même à correspondre avec Marie, à la fois pour avoir des nouvelles de sa famille et de ses enfants, mais aussi en échappant d'une certaine façon à la censure et en ne passant pas par le courrier officiel.
Oui, et ses lettres à Marie sont de très belles lettres. D'abord, ce sont de très belles lettres d'amour adressées à une jeune femme qu'il avait très peu connue finalement et à laquelle il exprime avec tout son cœur et en même temps toute cette rhétorique littéraire. J'évoquais tout à l'heure la profondeur de ses sentiments et sa totale confiance. Ce sont aussi des lettres très familiales. Il conjure Marie de s'occuper de l'éducation non seulement de leur petite Jeanne qui est née après son transport, puisqu'il avait connu Marie pendant la Commune et que c'est à ce moment-là qu'il lui avait fait un bébé, mais aussi il lui donne des conseils pour l'éducation de son fils Charles, dont Marie a assumé la charge. Et il donne ses conseils non seulement pour son fils Charles, mais pour son neveu, le fils de son frère, qui s'appelle Charles aussi, et dont Marie se trouve également en partie responsable, c'est-à-dire les charges qui pèsent sur cette jeune femme.
Rouge de tes lèvres dans les fanfares des drapeaux. Est-ce la ville qui s'enfièvre? Est-ce mon cœur à fleur de peau?
12 printemps montent à la tête qu'on avait tant et tant rêvé. La vie a pris des ailes faites, le temps d'aimer est arrivé.
La terre dans une kermesse comme le ciel n'en vit jamais. Paris qui part à la conquête, à des sourires éclatants. Oh ma coquette, est-ce Paris qui a 20 ans? Fou d'espérance et de jeunesse, c'est mon amour et c'est le tien. Des millions d'hommes nous connaissent, le monde entier nous appartient. La terre dans une kermesse comme le ciel.
Sous vitrine, 2 documents concernant Alman. D'abord, une photographie qui est probablement celle d'un homme d'une 40aine d'années. Et pourtant, la dédicace aux membres de la municipalité de Saint-Denis date de 1935, c'est-à-dire de l'année de la mort d'Alman, qui avait 92 ans à l'époque.
C'est cela. Avant la guerre, en 1935 précisément, le musée de Saint-Denis avait organisé une très importante exposition sur la Commune de Paris. et un comité s'était chargé de patronner cette exposition qui avait à sa tête Lucien Descaves.
Puis une lettre émouvante parce que c'est sans doute une des dernières lettres qu'il a adressées à sa compagne, Marie. Elle est du 3 avril 1879. Il est dans ses derniers mois de détention à l'Île-Nou dans les conditions les plus difficiles. Et il y a une écriture pourtant très, très régulière, très, très affirmée.
Ce qui frappe beaucoup lorsque l'on regarde tous ces documents qui nous viennent d'une période aussi trouble, c'est la qualité de l'écriture. Il s'agit en effet d'un temps où les gens savaient écrire. Ils écrivaient avec des plumes sergent-major, avec des plumes d'acier, et c'est absolument étonnant de voir comment, en ces temps de guerre, on prenait encore le temps d'écrire. Mais je crois qu'on écrivait bien parce que l'on savait écrire, c'était une habitude.
Et pourtant, c'est une lettre pleine de passion, à la fois de passion politique, il parle de l'avenir de la République, et aussi de passion sentimentale, puisqu'il dit à sa compagne Marie qu'il compte la serrer dans ses bras. Et dans peu de mois, dit-il, donc il sait qu'il va probablement bientôt bénéficier de l'amnistie. Et il lui dit également que son courage a toujours été à la hauteur des événements.
Laissons là les tristes histoires et ces lugubres convois qui se dirigent vers le charnier de l'île Nou. Un jour viendra où la vérité éclatera, terrible et accusatrice, clouant au pilori les complices de l'infamie, et vengeant ainsi les malheureux tombés sous le fardeau écrasant des souffrances physiques et morales. Attendons ce jugement de l'histoire et montrons un front calme à nos ennemis, qu'ils s'appellent hommes ou maladies. Je crois devoir te dire que nos pauvres amis sont morts en citoyens, et que leur dernier soupir était encore plein de cette douce et fière résignation de martyr de la foi républicaine. Pas de prêtre, dites aux autres que nous mourrons comme nous avons vécu. Telle a été la fin de ces parias de la commune. Un grand nombre des nôtres assistaient à ces funérailles qui n'ont rien de la pompe de nos enterrements parisiens. Vire-toi une bière recouverte d'un drap blanc, porté par 4 condamnés, escorté d'un surveillant, puis le groupe des compagnons de souffrance qui suivent en silence jusqu'à la fosse où l'on descend le délivrer. J'ai pu voir de loin défiler le lugubre convoi de Feltès. Ils étaient environ une 60aine des nôtres. Inutile de te dire que nous, du peloton de correction, nous n'assistons à aucune de ces cérémonies. Il nous est interdit de communiquer avec nos amis du camp, sous peine de punition. 20 février 1878.
Ce qui est beau dans ces lettres aussi, ce qui est passionnant dans ces lettres, c'est que politiquement, d'une certaine manière, il semble considérer Marie comme son égale. Elle lui fait passer des nouvelles de ceux de ses amis qui ont échappé à la déportation. Il la prie de communiquer des nouvelles de communards qui sont en détention à Nouméa, à leur famille. Elle sert d'intermédiaire. Ce n'est pas la seule. On a l'impression, à travers ces lettres, que toute une correspondance, qui n'est pas le fait d'Alman seul, a existé entre les communeux et leur famille, et que des réseaux d'amitié et de solidarité sont ainsi constitués à Paris, entre des familles qui apparemment se connaissaient peu auparavant, entre des femmes en particulier, qui ne se connaissaient guère, et qui ont ainsi pu maintenir vivante la mémoire et assurer l'information de ceux qui, pour l'action héroïque qu'ils avaient menée, étaient au ban.
Vast océan, tes vagues écumantes ont vu passer ces soldats d'avenir, calmes et fiers sur leur prison flottante. Ils te narguaient car ils savaient mourir. Si leur geôlier redoutait la tempête, jamais leur cœur ne renferma d'effroi. La foudre en vain fit rage sur leur tête pour éprouver ces fils du peuple roi. Si la patrie est enchaînée par eux, qu'elle
chérie, retrouve l'énergie et sois régénérée.
En s'apaisant au comble d'infamie, tes flots soumis les mèneront au port. Ne pouvait-il leur arracher la vie? Le bagne est-il préférable à la mort? Ils ont maudit que ne vit pas le Dante. Enfer nouveau, repeuple tes cachots. Ils sont à toi pour les briser. Enfante tous les tourments et double tes bourreaux.
Si la patrie est enchaînée par eux, qu'elle soit délivrée par eux, que la France chérie retrouve l'énergie et soit
Ce temps que Alman passe au bagne est marqué par trois séries d'épreuves. D'abord, le fait de vivre dans la promiscuité d'autres détenus dans un espace extraordinairement réduit. Lorsqu'il est à l'île Nou, il dispose d'un espace de 2 mètres sur 50 centimètres où il a un hamac. Les cases dans lesquelles il se trouve sont de 20 mètres de long et 6 mètres de large et comprennent 80 bagnards qui ont chacun une planche, un sac, et ils doivent s'asseoir sur le sol.
Oui.
D'abord, manque d'espace. Ensuite, la deuxième épreuve, c'est évidemment l'épreuve du travail forcé, et souvent un travail physiquement extrêmement dur, qui consiste soit à casser des pierres, ou à travailler au four à chaud.
C'est et encore pire, le four à chaud. La carrière, c'est déjà terrible, mais le four à chaud, c'est la pire des peines.
Et enfin, troisième épreuve, l'humiliation et la douleur physique à travers les corrections physiques qui sont imposées aux détenus pour la moindre vétille et à plus forte raison, par exemple pour les tentatives d'évasion, la crapaudine, le silo, la double boucle, les poussettes, le martinet à 7 branches.
Oui, on ne saurait les décrire toutes. La crapaudine est restée célèbre puisqu'elle a continué à être usitée dans les bagnes français jusque très très tardivement. Les bras étaient fixés à une barre derrière le dos et on devait se tenir dans cette position dans des conditions vraiment insupportables. Oui, ces peines sont terribles et en même temps on a le sentiment que le fait d'être ferré, puisque lorsque Alman est arrivé à l'île de Nou, on lui a remis les fers. C'était le fait d'être ferré constitue la punition permanente, celle sur le fond de laquelle les autres sont imposés épisodiquement. Mais le fait d'être ainsi ferré comme une bête, comme un animal, est quelque chose qui, pour Alman, comme pour de très nombreux autres déportés qui se sont trouvés dans ces conditions à l'île Nou, est rigoureusement intolérable.
La colonne des nouveaux débarqués s'ébranle et s'avance vers les cases qui bordent le boulevard de la Guillotine ou du Crime. Nous voici parvenus devant les cases de la quatrième classe où se trouvent enfermés les 900 forçats appartenant aux diverses catégories de condamnés composant le peloton dit « de correction ».« Halte !» crie un des surveillants en chef. La colonne s'arrête, puis l'ordre lui est donné de se placer sur 2 rangs et de faire face au boulevard. À notre gauche se voient des surveillants en armes et à droite, des soldats d'infanterie de marine. En face viennent se ranger les condamnés du pénitencier dépôt appartenant aux 3 premières classes. Un silence de mort règne sur cette foule dont toute l'attention se concentre vers le côté du rectangle où se trouvent les prisons. Au bout de quelques instants, la ligne des surveillants militaires s'ouvre et livre passage à un forçat portant un banc. Nous comprenons alors qu'il s'agit d'une bastonnade. Le banc est placé au centre et parallèlement à notre alignement. Quelques secondes s'écoulent, puis, dévalant du côté des prisons, nous voyons s'avancer une troupe de condamnés dont quelques-uns sont attachés au poignet, pendant que les autres sont maîtres de leurs mouvements. Les premiers sont les patients, les autres les correcteurs. Toujours et partout le spectacle de l'immonde lâcheté humaine. Des misérables consentent à frapper, à terroriser, à torturer et à assassiner des misérables comme eux. Mais le rectangle s'ouvre à nouveau pour livrer passage à un second groupe de condamnés et nous pouvons alors compter les patients. Ils sont au nombre de 7, tous pâles, comme des spectres. Un des correcteurs détache de sa ceinture un martinet qui y pendait, l'examine avec attention et attend qu'on lui donne l'ordre de frapper. L'aspect de cet individu est repoussant. À ce moment, nous voyons un surveillant à 2 galons s'approcher du banc de torture. « Êtes-vous prêt ?» demande-t-il au correcteur. « Oui, chef. Eh bien, qu'on commence. » Et il appelle un des patients. Les correcteurs le saisissent, l'allongent sur le banc, la face contre le bois, et les 2 bras en encadrant l'extrémité. Cela fait, on lui attache les pieds et le torse, après qu'on a rabattu son pantalon et relevé sa chemise par-dessus sa tête. « Exécuté !» commande la brute galonnée. Le correcteur lève le martinet. « 1 !» dit le chiourme, frappant le sol du pied. L'instrument de torture tourbillonne et s'abat sur le corps du patient. Un sourd gémissement se fait entendre et, sous la souffrance endurée, le corps du supplicié se raidit. L'épiderme couvrant les reins se boursoufle. 2. Les 7 branches du martinet viennent s'abattre à la même place et le sang gicle. Un cri rauque s'échappe de la gorge du patient dont le corps, malgré les liens qui le maîtrisent, a des soubresauts. 3, continue le chiourme impassible. Les torrons des lanières entament la peau et la chair du malheureux qui pousse des cris épouvantables. 4. Cela devient affreux. Le sang du patient coule en abondance. Et les yeux hagards, nous regardons cette abomination. Nous percevons ses hurlements, la gorge serrée, le cœur oppressé à en mourir. Mon compagnon de droite, le citoyen Quétin, s'évanouit. Et je dois le soutenir. « Ne bougez pas, charogne !» glapit un surveillant. « Face en tête, salaud, ou gare !» nous crie un deuxième chiourme. On se raidit contre le dégoût. 5. Le fouet s'abat plus rudement encore et les hurlements deviennent fous. Se continue sans arrêt. Mon voisin de gauche chancelle à son tour. On le soutient comme Quétin, pendant que la séance sanglante continue au milieu des jurons des surveillants. 6, 7, 8, 9, 10. Le martinet poursuit son œuvre, coupant, hachant la chair du patient. Des lambeaux de peau et de chair se mêlent au sang qui jaillit jusque sur le correcteur. Et le tigre à face humaine qui, calme, presque souriant, ordonne les coups de martinet, continue à frapper la terre du pied, pendant que le correcteur s'acharne sur sa victime. Cela me paraît durer 1 siècle. 25, finit par dire l'homme aux 2 galons. On abaisse sa chemise qui lui couvre la tête et nous apercevons sa face convulsée. Ce visage n'a rien d'humain. La souffrance, peut-être, aussi la honte, l'ont comme ravagé.
Pendant toutes ces années et jusqu'à l'amnistie dont il va pouvoir bénéficier, Alman, au fond, n'a pas l'air de croire qu'il a une chance un jour de revenir. Il a le sentiment que ce bagne va durer très longtemps et que probablement il va y mourir et qu'on ne peut pas échapper non plus à la répression puisqu'il suffit de très peu de choses, notamment bien sûr d'une tentative d'évasion pour risquer d'être condamné à mort.
C'est au moins ce qu'il dit dans ses mémoires, parce que dans les lettres qu'il envoie à Marie, on lit plutôt autre chose. Peut-être parce qu'il veut entretenir chez Marie l'espoir qu'ils se retrouveront, qu'ils se marieront et qu'ils auront une vie commune. Mais peut-être aussi pour d'autres raisons, parce que ses lettres à Marie sont marquées par les espoirs qu'il place dans la République et dans le fait que, y compris les républicains les plus bourgeois, s'occuperont de faire voter l'amnistie. Il a de ce point de vue confiance dans Gambetta, qu'il appelle le civique Gambetta. Il a confiance dans Jules Grévy. Il félicite par lettre Gambetta d'avoir accepté de s'effacer devant Jules Grévy à la présidence de la République. Il dit qu'il n'est pas possible que ces républicains bourgeois ne votent pas l'amnistie. On sent très bien que l'espoir le traverse constamment. Même si dans ses mémoires, écrits dans une phase où il est très en conflit avec les leaders bourgeois de la République française, il dit le contraire. Et là, on saisit tout cet écart. Mais si Alman a espéré dans l'amnistie républicaine, il n'a par contre jamais accepté de déposer des dossiers de recours en grâce. Et dans sa correspondance avec Marie, on le voit très bien qu'il refuse absolument tout ce qui pourrait apparaître comme constituant un reniement, oui, de ce qu'il a fait pendant la Commune. Et pour déposer un dossier de recours en grâce, il faut quand même d'une certaine manière s'excuser. La grâce, ce n'est pas l'amnistie. La grâce, elle est vécue comme une démarche d'excuse et par conséquent comme un recul par rapport au comportement qu'on a eu pendant la Commune. Et beaucoup de camarades d'Alman remplissent ces dossiers de grâce. Et Marie elle-même conseille à Alman d'en remplir. Elle lui dit, je puis aller voir un tel, j'ai par un tel la possibilité de faire des démarches auprès d'un tel. Et Alman lui répond, n'en fais rien, la grâce est honteuse. Et de toute façon, qu'obtiendront-ils ce qu'il la demande maintenant?
La grâce est vécue comme humiliation.
Comme
mais
humiliation supplémentaire, s'ajoutant aux autres.
Aussi l'administration du bagne tourne en dérision les détenus qui demandent leur grâce.
Oui, elle les tourne en dérision, d'autant qu'elle doit elle-même donner son avis sur ces détenus. Et que tout
elle
le circuit administratif. Je pense que c'est en partie dans ses contacts avec l'administration du bagne que Alman a puisé ce mépris et même d'une certaine manière cette horreur qu'il éprouvera toute sa vie pour le système administratif français. Il ne détestera pas seulement les petits chefs, il ne détestera pas seulement les militaires, et nous avons vu les curés, nous avons eu l'occasion de le dire, les curés, mais aussi le personnel qui dépend de l'État, l'administration, ces gens qui sont assis dans leur fauteuil, qui sont sûrs de leur carrière, à qui rien ne peut arriver, sauf s'ils se révoltent, et qui ne se révoltent pas, pour être sûr que rien ne leur arrive.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur un communard déporté au bagne de Nouvelle-Calédonie, Jean Alman, par Jean Montalbetti, médiateur Madeleine Rébériou, vice-présidente du musée d'Orsay, consultant Jean Rollin, conservateur du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. Les textes extraits des mémoires d'un communard de Jean Alman et de sa correspondance inédite avec sa compagne Marie Quesneau ont été interprétés par Jean Rochefort. Recherche de documentation, Catherine Montalbetti. Prise de son, Léon Gallois et Yves Bardet. Mixage, Jean-Louis Boissonnade. Réalisation, Eliane Millot.
Cette émission, deuxième volet d'une série de trois, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 mars 1983. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. À suivre.